en voyant bien comment ce problème se situe au terme de cette analyse métaphysique, cette analyse philosophie première, la réalité suprême que nous pouvons expérimenter, c'est la personne. Nous ne pouvons pas expérimenter une autre réalité plus parfaite que la personne humaine, de fait. Alors c'est très important, puisque c'est essayer de comprendre ce contact de l'intelligence avec l'être et avec l'esprit. Et qu'au fond, c'est ce lien entre l'être et l'esprit qui est le problème le plus délicat, le problème le plus débattu dans notre philosophie occidentale. Mais pour la Grèce, c'était le point de vue de l'être, la pensée, tonoein, toeinain, tolegein. C'est sûr que ce triangle parménidien est très important et qu'il revient tout le temps parce qu'il est une structure de notre vie, de l'homme par rapport à la réalité. Je crois qu'il faut comprendre que dans notre monde d'aujourd'hui, ce triangle demeure. Mais il y a eu, de fait, comme une espèce d'excroissance, j'appelle ça excroissance, vous pourrez l'appeler un développement, je dis une excroissance de ce que représente le tonoein par rapport au toeinain, c'est-à-dire le penser comparativement à l'être. Et le penser a dépassé l'être. Le penser, c'est le tonoï, le fait de l'expérience même de l'autonomie de la pensée a été poussée jusqu'au bout. Et le point de vue de la pensée a voulu dominer toute espèce de réalité qu'elle pouvait atteindre. Et alors, par le fait même, vous voyez, le tolegein s'est séparé lui-même et est devenu comme un fait qu'on considère. C'est très très curieux, ce phénomène de l'excroissance. C'est intéressant parce que ça nous aide à mieux comprendre certains développements. Vous savez, quand on est en face de certains développements philosophiques, il faut toujours se demander si ces développements sont des excroissances ou vraiment un vrai développement de la pensée. C'est très difficile, parce qu'il s'agit de comprendre l'origine de ce que c'est que la pensée, de ce que c'est que l'être, de ce que c'est que le legein, pour pouvoir comprendre si c'est une excroissance ou au contraire un développement. Alors, c'est très curieux qu'aujourd'hui, où tout le monde est tellement sensibilisé à l'aspect génétique, en philosophie qu'on ne l'applique pas. On ne l'applique pas du tout. On dit, il y a la Grèce d'un côté, il y a Descartes de l'autre, puis il y a la pensée moderne, et puis on croit pouvoir comprendre la pensée moderne par elle-même. C'est ce qu'on croit la plupart du temps. On croit pouvoir penser immédiatement Heidegger en regardant Heidegger. Heidegger n'est pas une génération spontanée. Heidegger, il y a des tas de choses qu'il draine. Et si on ne comprend pas des tas de choses qu'il draine, on n'y comprend rien du tout. Alors on le répète sans rien y comprendre. Je crois qu'il y a là, il y a les deux, hein. Il y a l'aspect génétique qui est très important, et puis il y a l'expérience. Il y a toujours les deux. Alors il est sûr que le problème de la personne est un de ces problèmes particulièrement importants pour nous, parce que c'est la relation de l'esprit et de l'être. C'est ça qu'il faut saisir. Vous voyez, le legein viendra après. Alors il faudrait se demander pourquoi, lorsque il y a un développement du noein, de la pensée, un développement de la pensée pour elle-même, autrement dit, quand on est en face de la subjectivité transcendantale, pour employer l'expression, quand on est en face de la subjectivité transcendantale, pourquoi le legein, alors, va s'isoler? Vous voyez, je fais le petit schème, si vous voulez. Je donne ça, c'est pour que vous ayez, comme disait Heidegger, à penser pendant le cours, hein. Vous réfléchissez sur quelque chose qui est capital. Si c'est le point d'orgue de la philosophie première, le problème de la personne, c'est quand même capital. Tout va se réunir là-dessus. Pour vraiment comprendre le problème, c'est vraiment le nœud qui va être le nœud de toute la philosophie première, je crois. Et que toute conception de la personne engage une philosophie première. Alors c'est important d'essayer de bien saisir ça. Donc, si vous avez le point de vue penser. Être, penser, l'être, hein, ce que dira Heidegger, il le reprendra. Et puis le legein, le dire, c'est-à-dire la parole. Dans le point de vue de Parménide, il y a identité entre la pensée et l'être, identité avec le dire. Pourquoi ? Parce qu'on est en face de la déesse. C'est le privilège de la déesse. C'est le privilège de la pensée divine d'être adéquate à l'être. C'est le privilège de la pensée divine de dire que la parole divine égale l'être et ne fait pas nombre avec l'être. C'est très vrai, ça. Et c'est très juste. Si vous êtes dans un domaine divin, la déesse, c'est le domaine divin. Alors vous avez l'identité entre les trois. Vous voyez comme c'est proche de certaines perspectives actuelles. Hein. On voit très bien. La philosophie grecque, après le développement de Parménide, va réfléchir sur ces liens entre penser, être et dire. Et Aristote, je prends Aristote parce que c'est de fait la pensée la plus nette au point de vue précision, Aristote montrera comment la pensée est relative à l'être et comment le dire et la parole est relative à la pensée. Il n'y a pas un lien direct de la parole avec l'être. Le lien direct, c'est avec la pensée. Vous voyez comment ça se fait le circuit. Hein? Il faut toujours repenser. Et c'est, de fait, la médiation, c'est la pensée. La pensée, la médiation entre l'être et la parole. Qu'est-ce qui fait la médiation entre l'être et la parole? C'est la pensée. Alors évidemment, une personne, c'est quelqu'un qui est capable de parler. On pourrait dire, c'est le propre de l'homme de parler. Le propre. Parce qu'il y a des personnes qui ne parlent pas et qui peuvent être des personnes. Donc le propre de l'homme de penser. Est-ce que le propre de l'homme c'est de parler? Est-ce que le propre d'homme c'est de penser? Un minimum. Minimum. Il pourrait encore y avoir une personne métaphysique qui ne pense pas. Elle serait très métaphysique celle-là. Elle serait radicale. C'est possible, c'est possible. Vous voyez que c'est pas commode de définir ce que c'est que la personne. Hein? La personne humaine. La personne humaine ne peut pas se définir directement par l'être. Parce que la vache, c'est l'être aussi. Alors, il y a quand même une petite différence entre la vache et la personne humaine. C'est pas ma plus grande expérience de soigner les vaches. C'est une expérience humaine, c'est pas ma plus grande expérience. Quand je suis en présence d'un contact avec les personnes humaines, il y a quand même une expérience un peu plus grande. Alors, l'expérience est plus profonde lorsqu'il s'agit de la personne humaine. Donc, il s'agit toujours, vous voyez, et c'est par le point de vue de la pensée, évidemment, que je comprends, et par le point de vue du dire. C'est vrai que lorsqu'il s'agit de la personne humaine, pensée, être et parole vont se retrouver. Qu'est-ce qui s'est passé dans le développement de notre philosophie occidentale? Je ne regarde pas tous les moments. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce développement extraordinaire de la pensée. Subjectivité transcendantale. L'autonomie absolue de la pensée. C'est bien évident que la pensée est source d'autonomie, nous le verrons. Mais elle n'est pas l'autonomie absolue. Elle n'est pas l'autonomie absolue. Il n'y a pas que la pensée dans la personne humaine. Il y a tout le domaine de l'amour. Donc, subjectivité transcendantale. Une fois que je fais la subjectivité transcendantale, une fois que j'entre dans cette perspective de la subjectivité transcendantale, l'être devient relative à cette subjectivité transcendantale. Il devient relatif. Qu'est-ce que je connais sont les formes. Et je mesure. La forme, elle est dans la pensée, et je mesure ce qui est par le point de vue de la forme. Autrement, je ne connais rien. Donc, si je ne connais rien, au bout d'un certain temps, ça disparaît. Si vraiment le nous-mêmes est absolument inconnu, il vaut mieux pas en parler. C'est un X. Un X, on le laisse tomber. N'est-ce pas ? C'est un X qui est quelque chose d'absolument en dehors de tout ce que je peux atteindre. Qu'est-ce que j'atteins ? C'est la forme. Et c'est ça que je regarde. Le langage, c'est très curieux. Quand la relation pensée et être ne vont plus, et que la pensée prend tout, alors on aura une espèce d'autonomie, j'allais presque dire une vengeance de la parole, qui va se séparer de la pensée. C'est une manière de se rattraper, plus petit, hein, on ne peut pas tomber dans la tyrannie de la subjectivité transcendantale. Alors la parole, elle est donnée, on dit bien que c'est l'homme qui a inventé la parole, mais la signification de la parole, je vais la regarder pour elle-même. Je vais la regarder en elle-même. Et la parole va être directement reliée à l'être. C'est curieux, c'est juste inverse de ce qu'on disait. Vous voyez l'inversion. La parole est reliée directement à l'être, reliée directement à ce qui est. Elle subponite, elle tient la place de la réalité. Et je la regarde directement dans la signification de la réalité. Elle signifie la réalité. Et le point de vue de la pensée est coupé de l'être. Et alors, est source de la parole, c'est bien évident, la subjectivité transcendantale est source de la parole, mais elle est source comme d'une œuvre d'art. C'est pas ce que je pense qui va me donner le point de vue de la parole. Je regarde la parole en elle-même, comme une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art, elle parle par elle-même. Eh bien, la parole, elle parle par elle-même. Vous voyez ? C'est propre de l'œuvre d'art. Je ne veux pas, pour comprendre une œuvre d'art, ce que j'aimerais savoir ce que l'artiste a pensé en faisant ça. Non, je ne fais pas ça. Je regarde l'œuvre d'art en elle-même. Une œuvre d'art, une peinture, très bien, l'artiste, il a fait ce qu'il a pu, je regarde l'œuvre d'art. Eh bien, la parole est considérée comme une œuvre d'art. D'où, par le fait même, la parole est considérée pour elle-même, comme un substitut de l'être, comme un autre monde. Vous voyez ? Bon, alors... Nous revenons au problème de la personne maintenant pour essayer d'entrer dans ce problème de la personne. Il serait très intéressant, je vous dis la dernière fois, mais je reviens un instant, il serait très intéressant de faire cette petite topique historique, comprendre tout le développement de la philosophie occidentale sous l'angle de la personne. C'est ça l'intérêt des topiques historiques. Ce n'est pas strictement une histoire, c'est une histoire téléguidée. C'est pour ça que je dis topique historique. Une histoire téléguidée vis-à-vis de tel problème. Ce n'est pas n'importe quel problème. Bon, je vois que le problème de la personne, il existe avant qu'il y ait un nom. C'est aussi très curieux. Ça sera un petit problème intéressant à voir. Parce qu'il y a des réalités qui n'existent qu'en fonction des noms. Puis il y a des réalités qui existent avant qu'on les nomme. Et c'est un des rares cas où saint Thomas dit à propos de la personne que faisons attention, la réalité existe avant le nom. C'est peut-être parce que c'est la réalité la plus riche que nous expérimentons. C'est peut-être parce que la personne s'est développée d'abord par le point de vue de l'amour. Et quand c'est le point de vue de l'amour, la réalité est avant le nom. Tandis que les réalités logiques, le nom existe avant. Très souvent, c'est comme ça. Les réalités qui sont pas d'une richesse extraordinaire sont supportées par le nom. Alors le nom existe. Et le nom continue d'exister, même quand la réalité n'existe plus. Tandis que la personne, c'est un fait. Ça, il faut se poser la question, comment ça se fait ? En philosophie grecque, dans le développement de l'histoire de la philosophie grecque, on voit que la personne, le mot personne, n'apparaît qu'avec les stoïciens. Le mot personne avant, c'est le masque, c'est quelque chose tout à fait tsai, c'est dans l'art. Mais ce n'est pas du tout la personne, telle qu'on l'entend. La réalité existe parce que si on regarde attentivement l'éthique d'Aristote, si on regarde attentivement la pensée platonicienne, on voit quand même que le problème de la personne existe. Surtout avec l'éthique aristotélicienne. On voit le vouloir, on est responsable. La responsabilité, elle n'existe que s'il y a une personne. Il y a l'amour d'amitié. Donc ça ne peut exister que s'il y a une personne. Et ça me semble impossible autrement. Mais la réalité existe, mais le nom n'y est pas. Ce seront les stoïciens qui auront le mérite, il faut le reconnaître. Les stoïciens auront le mérite de reconnaître la personne et par là, ils vont mettre l'accent sur le point de vue de la liberté. Et vont mettre l'accent sur la personne humaine, citoyen du monde. C'est quand même très impressionnant de voir que c'est à partir du fait qu'on ait nommé la personne qu'on lui a donné une autonomie beaucoup plus grande que d'être uniquement dans son pays. On n'est plus uniquement grec. Parce que c'est quelque chose d'être grec. Non, on n'est plus uniquement grec. On est citoyen du monde. Alors à partir de là, n'importe qui est citoyen du monde, même si on n'est pas grec. C'est l'avantage des stoïciens. C'est que nous sommes tous des citoyens du monde. Si nous sommes suffisamment intelligents pour avoir un tout petit regard universel. Je regarde ensuite chez les théologiens, je vous l'ai dit, les théologiens ont beaucoup développé le problème de la personne. Mais ils l'ont développé en théologien. Et toutes les difficultés viennent de là. Parce que c'est pas commode d'aborder le problème avec les théologiens. Les théologiens sont des hommes barbus, hein, et difficiles à comprendre, parce qu'ils sont très conscients de ce qu'ils sont. Et les problèmes qui ont commencé d'être élaborés en théologie, il faut voir qu'est-ce qu'il y a comme contenu intelligible derrière. C'est très très curieux de voir ça. de voir comment le problème de la personne chez saint Thomas prend une ampleur énorme. Et c'est vraiment là où on considère qu'il y a l'originalité de la pensée de saint Thomas. C'est pas du côté de l'essai, c'est du côté de la personne. C'est très curieux, on a parlé de l'essai, on n'a pas parlé de la personne. Alors que c'est du côté de la personne qu'on aurait dû le voir. Du côté de la personne, il y a une originalité de saint Thomas comparativement à Aristote. Ça, on ne peut pas le nier. Et le problème de la personne est central au point de vue philosophique. Et donc, c'est là où on a la possibilité de comprendre comment la métaphysique de saint Thomas, utilisée en sa théologie, dépasse le problème d'Aristote. Ça, c'est sûr. On ne peut pas le nier. Mais c'est développé dans la théologie le mystère de Dieu dans sa simplicité, dans sa perfection, le mystère de tous les attributs du divin, le mystère de la très sainte Trinité, le mystère de l'image l'image de Dieu dans l'homme, le mystère de la très sainte Trinité, le mystère de l'incarnation, le mystère de l'Église. Donc nous voyons un développement de la personne. Je n'insiste pas plus, nous l'avions vu la dernière fois. Ce qui est très curieux, c'est que notre philosophie occidentale s'est développée beaucoup plus du côté de la liberté que du côté de la personne. C'est aussi intéressant à regarder. Cherchez dans un index, pour que l'enquête soit vite faite, à propos de Descartes. Et regardez au contraire la liberté. Vous voyez comme c'est le développement stoïcien de la personne qui s'est étendu. Au-delà du développement des théologiens. C'est curieux ces choses-là. Il y a des raisons, il faudrait regarder ces choses-là. Dans une véritable histoire de notre pensée occidentale, on devrait pouvoir comprendre ces choses-là. Comment le problème de la liberté s'est développé beaucoup plus. Au fond, la philosophie de la liberté, à partir de Descartes, c'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier. Or, la liberté, ce n'est pas suffisant. Hein. Il faut chercher la source de la liberté. Ce n'est pas la liberté en soi. Et la source de la liberté, c'est la personne. La personne, c'est le lieu de la liberté. Et c'est vrai, c'est le lieu de la liberté. On est une personne humaine quand on est capable de poser un acte libre. Mais si je regarde la liberté en elle-même, je télescope. Vous voyez, d'où ça vient ça? Je crois que c'est le point de vue ontologique qui tend à disparaître dans un développement vital, dans un développement psychologique. Alors, le point de vue de la liberté se développe énormément, le point de vue de la personne est un peu télescopé. Parce que la personne, je ne peux pas la comprendre d'un point de vue purement psychologique. La personne, je ne peux la comprendre qu'en impliquant un point de vue ontologique, la substance. Notre philosophie occidentale s'est développée anti-substance. Hein. Ça, il faut bien le voir. Elle s'est développée anti-substance. C'est pour ça qu'on aime beaucoup dire qu'aujourd'hui, la métaphysique d'Aristote, c'est une ousiologie. Pour bien montrer toute la distance qui existe entre Aristote et notre monde d'aujourd'hui, c'est antithétique. C'est pas du tout vrai. Si Aristote regarde le point de vue de ce qui est au-delà de la substance, c'est pas antithétique la position d'Aristote et la position moderne. Il y a des liens. Il y a des liens profonds entre les deux. Mais c'est intéressant de voir ça. C'est qu'au fond, de fait, notre philosophie occidentale s'est développée en abandonnant la substance. Si on abandonne la substance, on abandonne la personne, et dans le fait même, il ne reste plus que la liberté. Vous voyez ? C'est ce phénomène très particulier et intéressant à souligner. Cependant, le problème de la liberté, le problème de la personne humaine reprend un sens très profond dans une philosophie tout proche de la nôtre. Alors, je vais simplement souligner, d'une part, au niveau psychologique, alors je vous disais la dernière fois le mot, le Charles Audier. Et dans Charles Audier, il y a toute une recherche psychologique de la personne. La psychologie s'est développée auprès de la liberté et la psychologie comprend qu'il faut un noyau à la liberté. Et pour découvrir le noyau à la liberté, c'est le moi. C'est le sentiment du moi. C'est pas la substance du moi, c'est le sentiment du moi. Alors, vous voyez toute la différence qui existe. Ça, c'est ça le point de vue psychologique. C'est le sentiment du moi. Et on va développer les sentiments du moi fort. Le moi personnel est un moi qui se construit. Comme il se construit nécessairement dans le temps. Il y a un certain devenir de nos sentiments du moi. Le sentiment d'autonomie regarde le présent. Le sentiment de sécurité regarde le futur. Le sentiment d'envoi, le sentiment de valorisation regarde le passé.
Trois sentiments du moi.
Ça, c'est intéressant à retenir et à réfléchir là-dessus. Hein. Trois sentiments du moi. Alors, tâtez-vous le pouls pour voir vos sentiments du moi, pour voir si ça tient. Si ça tient la route, s'il y a quand même une certaine autonomie, une certaine sécurité, une certaine valorisation. Bon, ça, c'est ce que dit Audier. J'essaie de comprendre ça dans la structure du développement, et comme tout développement se fait dans la lutte, on comprend très bien que le sentiment du moi lutte constamment contre toutes les aliénations. On est aliéné parce que nous avons besoin d'un milieu. Nous nous développons dans un milieu. Le milieu, normalement, nous porte et peut nous aliéner. Un milieu trop fort nous aliène. Un milieu trop fort nous aliène. On ne respire plus. C'est une serre surchauffée. Et nous sommes une petite plante qui avons besoin de ne pas avoir ce milieu surchauffé. Alors un milieu surchauffé aliène. Et alors on voit tout de suite régression du moi dans l'aliénation. Vous voyez, on se replie. Il y a tout un phénomène de repliement. L'aliénation, c'est un phénomène de repliement, c'est terrible. Vous voyez ? Ou alors, au dernier lieu, on va retourner au berceau. On va retourner au berceau. C'est vraiment ce milieu est beaucoup trop rude, il est trop dur pour moi, ça ne va pas. Alors, il me faut autre chose. Alors, retour au berceau. Si je ne fais pas attention, si je ne quitte pas ce milieu qui m'aliène, il y aura le retour au berceau. Alors, je pousserai des cris pour retourner au berceau, pour qu'on se penche auprès de moi. Là-dessus, bon, tout est un phénomène qu'on connaît. Alors, le phénomène de la sécurité lutte contre l'angoisse. Ben, c'est toujours le milieu hein, dans lequel on est, c'est sûr. Mais c'est à l'égard de l'autonomie qu'on comprend le mieux le point de vue du milieu qui nous arrête et qui nous empêche de nous développer. Le phénomène de l'angoisse dépasse le point de vue du milieu. Et l'angoisse regarde toujours demain. L'angoisse nous empêche d'avoir un moi fort. C'est pour ça qu'il faut lutter contre l'angoisse par le point de vue de la sécurité. Je ne développe pas, mais c'est très intéressant. Ça vous donne une petite synthèse psychologique intéressante au point de vue du moi. C'est intéressant, du point de vue-là, de comprendre le phénomène de l'angoisse. Il faut comprendre le phénomène de l'angoisse psychologique et le phénomène de l'angoisse métaphysique, s'il existe. Hein. Mais voir un métapsychologisme métaphysique. Hein. Alors, il faut voir le phénomène de l'angoisse. Et puis, alors, le domaine de la valorisation, c'est le domaine de la culpabilité. Le domaine de l'avarice lutte contre la culpabilité. La culpabilité psychologique, ce n'est pas la culpabilité morale. La culpabilité psychologique, vous savez bien ce que ça représente. Hein. J'ai toujours tout raté dans ma vie. Alors ne me demandez pas quelque chose, ça va rater. Et d'avance, je sais que ça va rater. Et je fais tout pour que ça rate. Je vous avertis, je fais tout pour que ça rate. Vous me donnez une assiette, je ne peux pas la porter. Elle va casser. Et je la lâche. Et elle casse. Donc, vous ne pouvez rien donner. Et c'est ça le phénomène de la culpabilité. Alors, c'est plus ou moins fort, mais il y a des phénomènes de culpabilité qui vont très très fort. Et c'est vrai ce que je vous dis. On vous donne une assiette, elle est sûre d'être cassée. Vous êtes sûr d'avoir un accident. Sûr. Parce que vous avez toujours tout cassé. Donc, c'est sûr. Alors, vous provoquez. Et vous provoquez des accidents pour tomber dans le fossé. N'est-ce pas ? Alors, la culpabilité. Et on lutte contre, et c'est la valorisation. La valorisation, c'est de comprendre qu'il y a en nous quand même une certaine possibilité d'aimer. Je crois que vous avez là, voyez, les six grandes dimensions de notre psychisme. Les six structures de notre psychisme, si j'ose dire. Et elles sont nouées, c'est ça l'intérêt, elles sont nouées autour du moi. Cherchez bien, c'est intéressant à chercher au point de vue psychologique, de voir s'il y en a d'autres. Il y a les deux qui luttent tout le temps, et c'est en opposition. Au contraire, c'est le milieu vital dans lequel ça se développe. Bon, je ne peux pas m'arrêter là. Pourquoi ? J'espère que vous comprenez tout de suite pourquoi le point de vue psychologique n'est pas suffisant. Le point de vue psychologique n'est pas suffisant parce que le point de vue psychologique me montre uniquement un équilibre de force. C'est un équilibre. Il y a en moi des éléments de sécurité, il y a en moi des éléments d'angoisse. Je ne peux vivre que dans la mesure où il y a un certain dépassement de la sécurité par rapport à l'angoisse. L'angoisse restera toujours. On est tous un peu angoissés, tous. Alors il faudrait voir, vous mettre chacun d'entre vous dans des milieux particuliers pour voir à quel moment le phénomène de l'angoisse apparaît, à quel moment le phénomène de l'aliénation apparaît, et ainsi de suite. On pourrait jauger comme ça la force de la personne. Et c'est vrai, il y a des personnes qui tout de suite, des personnalités psychologiques, qui dépassent. Puis il y a des personnalités au contraire qui tout de suite. Spiritualité de la planche. Alors vous êtes dans l'aliénation, vous vous laissez prendre. Mais si vous résistez contre l'aliénation, j'étouffe. Ah, j'étouffe, oui. Vous voulez avoir l'autonomie. Alors quittez. Soupape de sûreté, quittez. Là, vous retrouverez votre autonomie. Vous retrouverez votre sécurité, vous trouverez la valorisation. Vous saurez que ne faut pas serrer la vis plus que tant. Si vous serrez la vis autour de vous plus que tant, ça craque. C'est un phénomène qu'on peut très bien, mais c'est un phénomène d'équilibre. Et on ne donne pas rien du tout, rien de plus. Comment acquérir la sécurité? Comment acquérir l'autonomie? Comment acquérir la valorisation? On ne vous le dit pas, on constate, en fait. Alors on peut voir, évidemment, on peut constater, puisque l'angoisse est... Mais on ne donne pas aucune finalité. C'est là où, au fond, le moi psychologique qu'on atteint n'est pas véritablement l'esprit. L'esprit demande la finalité. Or, de fait, le moi psychologique, ce n'est pas l'esprit. C'est un ingrédient multiple et divers qui fait que nous sommes un animal supérieur capable de sentir son moi personnel. Tandis que je ne crois pas que les autres animaux le sentent. Enfin, pas que les singes très développés sentent leur moi personnel ou leur moi individuel. Non, je ne crois pas. Phénomène de se dédoubler dans la glace, je ne crois pas, leur permet de découvrir leur moi personnel. Donc c'est un phénomène très propre à l'homme. Alors essayons maintenant, avant, regardons, essayons de dépasser le point de vue psychologique. Avant, je vous cite simplement que Max Scheler a eu, dans une perspective d'ordre phénoménologique, de développer très fort le problème de ce que représente le point de vue de la personne. Et puis, il y a également, et ça je crois qu'il ne faut surtout pas l'oublier, il y a également, d'un point de vue plus politique, dans une perspective plus éthique et politique, Mounier. Mounier estime qu'on ne peut définir la personne car elle n'est pas un objet et ne peut se saisir que de l'intérieur. Elle est la seule réalité que nous saisissons et que nous fassions en même temps du dedans. Elle est une activité vécue d'auto-création, de communication et d'adhésion qui se saisit et se connaît dans son acte comme mouvement de personnalisation. Vous voyez cette définition qui est ni psychologique, ni philosophique, et qui est quelque chose d'assez particulier. Elle est intéressante, puisque c'est un effort de saisir. La personne se révèle à nous sous divers aspects. Son incarnation qui la conditionne, sa vocation qui l'unifie et l'appelle à se dépasser indéfiniment, sa liberté qui est une liberté d'engagement, la liberté de découvrir elle-même sa vocation et d'adopter librement les moyens de la réalisation. Enfin, la communion. Au fond, ce sont les éléments que Mounier rassemble, qui sont des éléments qui ne sont pas propres à Mounier, que Mounier rassemble pour essayer de comprendre ce que c'est que la personne. Et le problème de Mounier, c'est la revue Esprit, vous vous souvenez bien, le problème de Mounier, pas la revue Esprit maintenant, c'est un peu différent de la revue de Mounier, du début. Mounier veut saisir ce que c'est que la personne face à la communauté politique. Alors, parallèlement à Mounier, il faut situer Maritain. Alors Maritain a un souci beaucoup plus philosophique, évidemment, que Mounier. Mounier a un souci politique, de saisir avant tout ce que c'est que la personne qui a son autonomie, son auto-création. Elle doit arriver à se créer elle-même, à avoir ça. Elle est une activité vécue d'auto-création et de communication et d'adhésion qui se saisit et se connaît dans son acte comme un mouvement de personnalisation. Et c'est très cru. Alors, Maritain va développer, lui, beaucoup le problème de la personne. Vous connaissez bien comment Maritain essaie de développer la personne par le problème de l'individu et de la personne, en opposant individu et personne. En opposant, c'est-à-dire en essayant de comprendre la différence qui existe entre le point de vue de la personne et de l'individu. C'est encore un problème politique qui va commander la perspective de Maritain. En premier lieu, ça ne veut pas dire du tout que Maritain ne regarde pas un point de vue philosophique, mais un point de vue philosophique politique. il essaie d'éclairer les récentes recherches sur la personne, spécialement celle de Mounier, en revenant à Saint-Thomas. C'est là le grand mérite de Maritain, de retourner à Saint-Thomas pour éclairer le problème de la personne. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça, il faut reconnaître quand même. On comprend comment, dans la mesure où le personnalisme moderne consiste essentiellement en une subjectivation de l'éthique, ce que déjà Mounier disait, oui, et ça c'est très très juste, le problème de l'éthique personnelle qui s'oppose à l'éthique de nature. Le problème constant pour les théologiens. L'éthique, une éthique, elle repose sur la personne, c'est bien évident. Alors on va opposer l'éthique de la personne et l'éthique de la nature humaine. L'éthique de la nature humaine, elle a des lois. L'éthique de la personne, elle a des responsabilités. On est responsable de ses actes. Et vous voyez, ça va conduire à une, ça peut conduire à une espèce de subjectivité transcendante de la personne. Personne ne peut être dans ma peau, donc personne ne peut me juger de l'extérieur. C'est tout à fait évangélique. Ne jugez pas les intentions. Alors les intentions, c'est quelque chose de subjectif, donc vous ne pouvez jamais juger. Si vous avez uniquement une morale de l'intention, une morale de la responsabilité, vous êtes dans le point de vue de la subjectivité. Et cette subjectivité va conduire vers une morale uniquement de situation. Ça se tient. Dans telle ou telle situation. C'est la morale de la prudence, vous voyez, d'une certaine manière. C'est pas la morale de l'activité morale, c'est l'activité de la prudence. Vous réduisez la morale uniquement à la prudence. La prudence, en effet, fait que je regarde les situations particulières dans lesquelles je me trouve. Alors je mets ça en lumière d'une façon très particulière. Alors ça va s'opposer, ça va se développer dans une opposition avec la morale de la nature, qui est la morale des lois, qui est la morale classique, traditionnelle, et ainsi de suite. Et tout ça va prendre un problème extrêmement aigu autour de tout le problème de la sexualité, le problème des vertus, et ainsi de suite. On voit très très bien. C'est ancien, c'est pas tout à fait moderne, mais actuellement ça prend une acuité très grande. Oui, quelquefois même une opposition entre les deux. Une opposition entre la morale de la loi, la morale de la nature, la morale objective et la morale subjective de la personne, la responsabilité. Il est bien évident que le souci de Maritain est d'essayer de dépasser ça. À ce point de vue-là, c'est très très juste et très vrai. Il faut dépasser cette opposition. Cette opposition n'est pas une opposition éthique. C'est une opposition a priori. C'est qu'on n'a pas compris que la personne assume la nature. Vous voyez, je ne peux pas opposer nature et personne. Je ne peux pas opposer les deux. Hein. Comment voulez-vous opposer les deux? Quelle est en vous votre nature? Ouais, c'est votre nature humaine. C'est un donné. La nature humaine est un donné, tandis que la personne, c'est quelque chose qui se crée. Je me crée moi-même. Vous savez, la main droite et la main gauche au point de vue hérédité, au point de vue créativité. On voit très très bien. Donc, je me crée perpétuellement. Et en même temps, il y a un donné, le vieux donné ancestral. C'est parce que j'appartiens à telle famille, parce que j'appartiens à telle culture, parce que j'appartiens à... que de fait, ça s'impose à moi. Mais en réalité, si je ne regardais que la personne, alors c'est la créativité. Bon, c'est très vrai qu'il faut bien saisir qu'il y a ces deux tendances, mais ces deux tendances proviennent d'une opposition fallacieuse. Il n'y a pas d'opposition au niveau éthique, je dis bien au niveau éthique. Au niveau éthique, il n'y a pas de distinction entre l'individu et la personne. Chaque acte que vous posez est toujours singulier. Il est toujours individuel, il est toujours personnel. Si vous posez un acte qui n'est pas personnel, il n'est pas moral. Et un acte est toujours singulier. Donc les seules activités qui peuvent être en dehors du point de vue personnel et du point de vue moral, ce sont les activités instinctives. Fricare barba. N'est-ce pas? Le fricare barba m'explique bien ça. Il est presque midi, j'ai faim. Ben, c'est pas éthique. Non, c'est pas éthique d'avoir faim. J'avoir faim, c'est simplement constater qu'il... Parce qu'il faut regarder son heure pour savoir si on a faim. Alors je constate, en effet, c'est la fin du cours. Le cours de métaphysique, c'est toujours merveilleux, parce que c'est un cocktail qui me donne un peu faim. N'est-ce pas ? Ça creuse en moi. Donc c'est merveilleux comme apéritif. Alors, parce que ça s'approche de l'heure. Alors, ça s'approche de l'heure du midi. C'est instinctif, ça. Ça n'a rien de point de vue. Le point de vue moral consisterait à m'arrêter à ça, à me délecter de ce besoin que j'ai de manger et de prendre une bonne soupe. Ça me délecterait ça, de prendre un bon beefsteak, ça me délecterait. Venez, alors ça, ce point de vue moral intervient là. Autrement, ça n'a rien de point de vue moral, c'est des instincts, ça fait partie. Alors on coupera, vous voyez, on dira ça c'est l'individu. Ah non, c'est pas l'individu, c'est l'instinct. L'individu, c'est pas uniquement l'instinct. Que l'instinct soit individuel, oui, mais l'individu va beaucoup plus loin. Oui. Donc la coupure qu'on fait entre morale de nature et morale personne, ce n'est pas une distinction éthique. Mais il faut la comprendre pour pouvoir répondre. Dans la perspective donc, du personnalisme dans laquelle Maritain va se plonger, il va essayer de découvrir ce que c'est que la personne humaine. La personne n'est plus considérée que dans son pouvoir autocréateur. Oui, dans la perspective, donc, au contraire, de la division dans laquelle du personnalisme. La personne sera autocréatrice, tandis que la nature, c'est le donné qui s'impose. Alors, Maritain va essayer de développer, de dépasser ce point de vue-là. Ça, mais c'est quand même dans ce climat. Et ça explique beaucoup. Parce que c'est dans ce climat. Dans ce climat, Maritain va prendre de fait une distinction que je crois qu'il n'aurait pas dû faire. Entre un personne. Vous voyez comment ça peut se situer. Une fois que j'ai compris cette opposition, je vois très bien comment on pourra mettre individu et puis personne. Alors on pourra mettre esprit et nature. Nature, c'est-à-dire l'aspect biologique. Alors, Maritain va essayer de se servir de cette distinction thomiste, puisée dans la théologie. La nature humaine du Christ est un individu. Et la nature humaine du Christ n'a pas d'autre personnalité, n'a pas d'autre personne que le Verbe de Dieu. Donc vous faites la distinction entre individu et personne. Et c'est vrai qu'au niveau du traité de l'incarnation, on fait la distinction entre les deux. Et on doit faire la distinction entre les deux. Maritain écrit, on peut dire qu'il y a comme une sorte de conflit chez nous entre personne et nature. J'entends entre la ligne métaphysique de la personne et la ligne métaphysique de la nature. La nature implique des structures constitutives reçues, déterminées ad unum. Ces structures sont reçues. Elles ne viennent pas de la personne comme sujet premier d'opération indépendant. Notre intelligence a une nature supra-physique. Notre volonté aussi. Elles sont ainsi, en tant que puissance ou faculté, distinctes de cette actuation immatérielle surabondance, de ce jeu actuel qui est leur opération, et qui, comme tel, émane de personne, et marque l'épanouissement de sa spontanéité. La nature de mon intelligence et celle de ma volonté sont reçues. Elles ne viennent pas de personne. Vous voyez bien, le reçu, le donné, ce qui est donné, la personne, l'individu, et la personne, la nature, et la personne, au contraire, c'est ce qui dépasse. Alors, à partir de cette distinction-là, Maritain arrivera à distinguer le point de vue de l'individu et de la personne. Vous voyez, il part de cette distinction naturelle-personne, c'est très clair, là, ça fait, il le reconnaît, il reconnaît qu'il y a une espèce de tragique en nous, c'est vrai. Si je réfléchis un instant, je peux dire qu'il y a un tragique psychologique en moi. Il y a quelque chose qui m'est donné et quelque chose au-dessus de donné. Il y a c'est la volonté qui est au-dessus. Et puis, il y a la personne qui... Donc, et il y a la nature dans son individualité qui m'est donnée. Je n'ai pas choisi la nature. Je n'ai pas choisi d'avoir telle nature, d'avoir tel atavisme. Ça, je n'ai pas choisi. Donc, si je n'ai pas choisi, je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable de tout ça. Tandis qu'au contraire, la chose que je choisis, c'est la construction de ma propre personne. Il repose sur le choix. À partir de cette distinction de la nature personne, il va arriver à pousser la distinction individu personne. Et cette distinction individu personne qui repose sur le point de vue propre, si vous voulez, de cette première distinction, permettra à Martin de dire l'individu est entièrement dans la communauté. Il part de la communauté, tandis que la personne est au-delà de la communauté politique. Au fond, c'est là que Marie veut essayer de comprendre. Dans une perspective d'une socialisation absolue, qu'est-ce qu'on peut socialiser, qu'est-ce qu'on ne peut pas socialiser? C'est une question très agréable. Qu'est-ce que vous pouvez socialiser, qu'est-ce que vous ne pouvez pas socialiser? C'est un très gros problème. Alors, Maritain, c'est cette réponse, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas caricaturer. Il y a un peu de cela. L'individu peut être socialisé. La personne. Alors, vous comprenez, ça va très loin, ça, parce que l'individu, c'est socialisé. L'individu, c'est notre corps, c'est toute notre vie biologique. Alors, ça peut être socialisé. On arrivera à la position de Platon. La position de Platon, c'est exactement ça. L'individu peut être socialisé. Pousser la socialisation jusqu'au bout, la socialisation des femmes et des enfants, la socialisation de tout bien. Et puis, la personne, c'est la contemplation. Donc, seule la contemplation échappe à la socialisation. Alors, vous comprenez que le parti politique socialiste, ça lui était égal que la contemplation soit au-dessus de la socialisation. Parce que ça le laisse complètement tranquille. Vous êtes dans l'échelle des principes, complètement indifférent. Et c'est ça le problème. On le reverra au terme. Est-ce que, en nous, tout peut être socialisé, sauf la contemplation? Et que la contemplation, plus grande intérieur, qui est visible, peut se socialiser. Ou est-ce que non? Le problème philosophique de poser autrement. Je ne vais pas entrer plus dans le problème de la personne chez Geoffrey et chez Heidegger. Je vais lier avec vous, à partir de la philosophie, de la métaphysique, comprendre qu'est-ce que c'est que la personne. Revenons à l'expérience. Oui. Revenons à l'expérience en essayant de dépasser ce fossé qui s'est créé au plan logique entre morale de la personne et morale de la nature. Ne pas accepter cette distinction. Dès que nous comprenons au point de vue métaphysique ce que la personne en voit, cette distinction est fausse. Et donc elle conduira à de faux problèmes et elle conduira à une impasse.